Je ne sais pas pourquoi. Je pensais à une histoire que j'ai lue récemment. Le maître Zen Suzuki Roshi de San Francisco, qui à une époque, un de ses élèves le voyait, plutôt qu'il n'était pas dans ses robes et tout ça, il était dans des habits pour aller jouer au tennis. Et il avait une raquette de tennis avec lui. Et il disait, mais Roshi, vous jouez au tennis. Vous allez où? Et il dit, ah, je vais jouer au tennis avec Betty. C'était une autre disciple qui apparemment jouait beaucoup de tennis. Et le disciple dit, mais vous jouez au tennis, vous savez jouer au tennis. Il dit, non, mais elle sait. Elle sait jouer. Et apparemment, il a fait ça régulièrement. Il jouait avec elle et une fois, le disciple est allé regarder et il a dit que c'était ahurissant parce que Suzuki Roshi était dans tous les sens, n'importe comment, etc. Et apparemment, tous les deux, ils étaient très contents. Aussi bien Suzuki Roshi que la femme avec qui il jouait. Je ne sais pas si c'est liberté ce qu'on appelle beginner's mind, c'est-à-dire que l'esprit du débutant ou juste non, on va voir. Et il se donnait pleinement à ça. Non, je ne sais pas. Mais elle sait. Elle sait jouer. Moi qui sais jouer au tennis, j'ai du mal à imaginer aller sur le terrain de tennis ne sachant pas comment jouer. Je suis dans la posture de l'experte. Bien que je ne suis pas du tout une experte en tennis.
Je trouve que ça témoigne de la part de cette femme une confiance inconditionnelle dans la possibilité de l'autre de pouvoir répondre d'une manière ou d'une autre, sans être dans ce qu'on entend habituellement, est-ce que tu es du même niveau que moi, alors je jouerai avec quelqu'un pour avoir du plaisir, etc. Ça se situe autrement, j'ai l'impression, elle, dans son acceptation.
Mais c'était son maître, donc je pense que c'était une façon pour elle d'être avec lui, de partager quelque chose avec lui, peut-être de l'introduire à quelque chose qu'elle aimait,
ouais.
Je ne sais pas,
enfin... Pour le tennis, il doit jouer avec des gens qui sont au même niveau, hein, pour avoir du plaisir.
Et probablement à jouer avec des gens du même niveau aussi.
Hein. Aussi, oui.
C'est vrai. Elle acceptait, elle lâchait ses idées de comment il faut jouer ou pas jouer. Inspirée comme par son exemple à lui, en fait. Peut-être, je ne sais pas. Mais est-ce que oui, dans les deux, est-ce qu'on peut être aussi ouverte que cette femme était? Et est-ce qu'on peut être aussi ouverte et libre qu'il était, lui?
Ouais. Et puis sa réponse est désarmante, je trouve, extraordinaire. Non, je ne sais pas jouer, mais elle le sait, c'est fabuleux, je trouve. Et ça change complètement le... la façon dont on voit les choses.
C'est ça, tout à fait. Un grand leçon. Enfin, la personne qui l'a raconté vivait ça comme un enseignement. Oui. Donc oui, je pensais à ça.
Je cherche, ça ne vient pas, mais je suis sûre qu'il y a plein de situations où ce serait très précieux d'avoir cette façon de faire, cette façon d'être, en fait. C'est pas faire, c'est être, en fait. Voilà. Je pense à certaines situations dans lesquelles peut-être il y a un danger ou l'importance de savoir faire confiance à quelqu'un qui sait, même si on ne sait pas. Mais dans des situations plus courantes, je suis sûre qu'il y a des applications à ça.
Oui. Est-ce qu'on peut se mettre dans les mains de quelqu'un d'autre?
Mmh.
Ou est-ce qu'on peut lâcher nos idées de comment on veut que les choses se passent?
Mmh.
Ou que une image qu'on aimerait se donner? Parce que là, il faut beaucoup d'humilité pour aller sur un court de tennis sans savoir même tenir la raquette. Enfin,
risquer de rater plein de balles, enfin, en lancer une balle, ne pas être capable de taper dans la balle, enfin, etc. etc. quoi.
Donc c'est beaucoup d'humilité dans ça.
C'est plus du tout la recherche de performance ou d'efficacité, mais c'est plus dans l'être, je trouve, dans le partage, dans l'expérience peut-être.
Tout à fait.
Mm.
Absolument. Et oui, on peut chercher plein de situations où on pourrait dire oui, ok, je peux faire ça, mais c'est en fait, c'est à chaque instant.
Mm.
Un peu, c'est ça la notion de l'esprit d'habitant, c'est chaque instant. Dans tout ce qu'on fait, on ne sait pas. On ne sait pas.
Je trouve que dans un sens, justement, Beginner's Mind et le fait que dans, je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les traditions, mais dans celle que je connais, qui est celle-ci, il n'y a pas de séance pour les seniors, des séances pour les moyens, des séances. Enfin, c'est tout le monde. J'ai juste un moment où on pratique ensemble, quel que soit l'ancienneté, 50 ans d'ancienneté, une semaine, un jour. Et c'est un peu ça l'esprit aussi, je trouve. Ouais.
Oui, mmh. Tout à fait. Et pour ceux qui savent, ils sont amenés à lâcher l'idée qu'ils sont experts. Attention, il y a des gens qui ont du mal avec ça, hein, de lâcher. Ils veulent toujours savoir mieux, ils vont dire aux gens qui ne font pas bien. Ou ça peut partir aussi d'une envie de juste partager, de dire oui, je sais, j'ai déjà fait ça, donc je peux, c'est comme ça qu'on fait, etc. C'est pas toujours négatif, l'idée de savoir quelque chose.
Ah non.
Et donc c'est.
Non, il y a ceux qui savent, qui vont se réunir entre eux, et puis voilà, ça.
Mmh. Mmh.
Et d'un côté, la possibilité d'entretien individuel permet à une personne, peut-être, d'avoir un cheminement et à son rythme, qui n'est peut-être pas tout à fait la même chose quand on est tous ensemble, parce que, moi, je vois.
Mmh. Mmh, c'est vrai. C'est vrai. Absolument. Et bon, c'est pour les débutants qui arrivent, si on reste dans notre situation à nous, c'est pas toujours facile parce qu'ils savent pas. Il y a une femme qui était là l'autre soir qui savait pas comment on fait le kinin, et je pense qu'elle était un peu perdue. Enfin, sur le montrer. Mais c'est difficile pour nous de comprendre ça. Pour nous, c'est tellement évident. Bah, on fait le kiné, on fait le tour de l'hôtel, et c'est ça 5 minutes, et puis quand c'est claqué le deuxième point, on marche vite, et puis. Mais. C'est pas. Et ça peut être intimidant. Je me souviens la première fois que moi, je suis venue dans un groupe de méditation. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Je ne savais pas du tout. Et personne ne m'a dit. Ou très peu. Mais bon, c'était ok, ça. J'ai appris. C'est une autre approche. Bon, on essaie de donner des instructions quand même, mais. Cette idée d'être l'expert, ça peut être dans ce contexte ici, mais ça, c'est partout. Hein, c'est pas juste dans ce contexte-là. Hein. On est l'experte dans notre propre vie. On sait. Et donc, c'est... Si ce n'est que, oui, je connais mon quartier, je connais ma rue, je le vois même plus. Je le vois même plus parce que je le connais. Je connais. Tandis que quelqu'un qui arrive pour la première fois va voir ça autrement, entièrement. Donc moi, je fais cet exercice régulièrement. Où je, quand je sors du métro chez moi, j'essaie d'avoir le perspective de quelqu'un qui arrive pour la première fois, qui monte pour la première fois le métro avec un pasteur. Et c'est très intéressant. Ou de changer où je regarde. J'ai regardé ce que c'était. Aujourd'hui, j'ai regardé dans un bureau près de chez moi. Je regardais en haut et j'ai vu un arbre qui était coupé étrangement. Je me suis dit, mais pourquoi? Et ça avait changé complètement mon expérience de cet endroit. Je ne l'avais jamais vu. Je n'ai jamais regardé en haut comme ça, dans cet endroit spécifique. C'est pour ça qu'on a les courants. Dans notre pratique, c'est systématisé parce que ça nous amène à regarder autrement. Et que ce soit ici ou ailleurs, ça nous amène à, ça nous aide à ne pas être experte, de ne pas savoir. Je pense beaucoup à cette... triptyque qu'ils utilisent les Tibétains, le ciel, terre et être humain. Et le ciel, c'est le je ne sais pas. C'est le je ne sais pas. Il n'y a pas de terre ferme, il n'y a pas de point de référence, je ne sais pas. Le terre, c'est concret. Je sais. Je suis quelque part, c'est solide, c'est ici, etc. Et puis l'être humain, c'est l'action, c'est à travers l'être humain où les deux s'expriment. Et si on n'a pas le ciel, je ne sais pas, ça ne marche pas. On sera trop figé. Si on n'a pas la terre sur laquelle s'appuyer, des choses concrètes, des nuances, des différences, l'abondance de toutes choses, tous les phénomènes, à l'intérieur et à l'extérieur. Si on n'a pas ça, on est uniquement le ciel, on sera perdu, on ne peut pas fonctionner. On a besoin des deux. Et c'est là l'être humain et l'incarnation de ça. Alors comment faire? Comment faire? On incarne de toute façon. On le manifeste de toute façon, mais on a tendance à manifester beaucoup plus le terre. Ce qui est solide, figé, parce qu'on a l'impression d'être safe. C'est connu. Le pas connu, le ciel, ça fait peur. Ça nous fait peur. Et donc, on va avoir des résistances à ça. Je vais m'endormir. Je crois qu'on a parlé de ça la semaine dernière. J'ai l'impression de répéter quelque chose que j'ai déjà dit. En fait, je parle toujours de la même chose. oui, on va résister à ça. Même à notre insu. Parce que ça fait peur de ne pas savoir. Où notre esprit, notre tête va très vite lancer avec des pensées, les rationaliser, et les concepts, etc. Et on voit dans notre monde toutes les positions, toutes les politiques, les activités, les économies, tout ça, qui sont basées sur, uniquement sur l'aspect terre, vont amener à diviser, à créer l'inégalité, à créer la séparation, à créer les conflits, à creuser des failles. Et c'est comme s'il y a une inégalité de... Il y a trop de terre. S'il y avait plus de ciel, il n'y aura pas cette... ce ne sera pas prononcé à ce point-là. Quand je parle de cette ciel, terre et humain, c'est juste... C'est un gris à travers lequel on peut regarder les choses. On peut regarder ça d'autres manières aussi.
Et donc, le ciel, ce serait ce qu'on ne sait pas, ce qui dépasse notre compréhension.
Oui, ce sera plutôt, oui, c'est ça, bien sûr, qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut pas rationaliser. C'est pas que c'est irrationnel, mais ça échappe à une tentative de conceptualiser, de saisir. Mais c'est ça qui amène de la créativité, en fait. Sans cet aspect ciel, il n'y a pas de créativité. Parce que la créativité, c'est s'ouvrir et laisser défiler, laisser être libre plutôt que de figer. Évidemment, à un moment, un peintre, un écrivain, un musicien, enfin n'importe quelle activité, tout est créatif en fait, hein, faire la cuisine, tout. À un moment, on va le mettre sur papier, on va produire le repas, je sais pas. Mais en le faisant, c'est là où la créativité est en marche. Et si on n'avait pas l'aspect ciel, la créativité n'est pas possible. Et plus on s'ouvre à cette je ne sais pas, plus on est créatif en fait. Mais il faut avoir l'aspect terre aussi parce que sinon il n'y a rien avec lequel on peut s'exprimer cette créativité.
Est-ce que ça a à voir ou pas du tout avec le relatif et l'absolu?
C'est une autre grille par laquelle on peut l'exprimer, oui. Le ciel, c'est l'absolu, et la terre, c'est le relatif. Oui. Et l'être humain, c'est les deux ensemble. C'est pas terre, et c'est pas ciel, c'est pas relatif, c'est pas absolu, mais c'est pas non plus pas relatif et pas absolu. C'est les deux ensemble. C'est un peu dans le film de Gimpo, c'est le apex, c'est le haut du triangle. On va toujours, partout, trouver les trilogies comme ça. Les triades, les trilogies, les trios, comment on dit, différentes choses comme ça. Toujours. C'est dans toutes les traditions, tous les domaines, il y a ces triades. Dans le chrétien, et le Père et le Fils, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le ciel, c'est enfin plus ou moins, c'est grosso modo, c'est ça.
En ce qui concerne la créativité, le ciel ce serait l'inspiration et la terre l'expression.
Peut-être, c'est une façon de le dire. Ouais. Ouais. J'ai entendu l'autre jour. Michel Serres qui parlait de la muse, la notion de muse, il disait en fait c'est pas, ça revenait à cette histoire, il dit c'est la créativité la muse, que la, on va expliquer ça chez les Grecs comme si c'était une déesse, ou on va dire que c'est une inspiration qui vient d'ailleurs, ou on va la mettre sur une personne, cette femme, c'est ma muse, etc. Mais c'est, ça revient à cette notion du ciel, en fait. Et c'est accessible à tout le monde. C'est ça. Il y a des gens qui disent « Ah, je ne suis pas créatif. Je ne suis pas créativité. » Mais ce n'est pas vrai. C'est quelque chose qui est là pour tout le monde. Bon, il y en a qui expriment ça, qui sont des artistes, mais on peut être créatif en... je sais pas...
En jouant au tennis quand on ne sait pas jouer.
Quoi ?
En jouant au tennis quand on ne sait pas jouer.
Voilà. Ou on peut être créatif en jouant au tennis, même si on sait jouer. Mm-hmm. Ou on peut être créatif en la façon qu'on met nos pantalons le matin, enfin, oui, c'est le choix de nos habits, la façon qu'on est dans une relation avec quelqu'un. Bon, il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres à s'ouvrir à ça, mais souvent il y a des gens qui ont une inégalité trop. Ils n'ont pas les pieds sur terre. C'est intéressant comme expression, parce qu'ils sont trop dans
la tête dans les étoiles.
Voilà les expressions, et souvent ces expressions comme ça sont très justes.
Oui.
On ne les écoute plus, hein. On ne réfléchit pas à ce que ça veut dire, mais c'est intéressant.
Et aussi la prise de terre en électricité.
C'est ça. Mmh. Voilà. Prise qui est...
Qui permet de
s'éclater. Ouais. Grounded, on dit en anglais.
Mmh. Oui. Ouais. Enraciné, c'est ça?
Oui, on dirait grounded pour quelqu'un qui est bien. Tu dirais grounded en français.
Les pieds sur terre.
Oui, c'est l'équivalent de ça. Quelqu'un qui est. Tu sens que la personne est bien là, qui est.
Incarné.
Oui, qui a les pieds sur terre.
Qui sera.
Équilibré, peut-être, je ne sais pas.
Oui, qui grounded, est là entièrement présent aussi. Mmh.
Oui,
c'est quelqu'un qui est un peu ailleurs, qui cherche à...
Oui. Oui, les pieds sur terre, peut-être. Oui. Mais on peut s'accrocher à ça. Et on peut se figer dans cette position de grounded. Et on peut pas faire le moindre écart. Il faut faire exactement comme ceci, si on est trop figé. Mm. Il faut avoir la même routine tous les jours, etc.
C'est à partir de cette référence-là aussi que tu nous invitais à utiliser dans les journées de...
Avec le calligraphie.
Oui.
Ouais.
Ouais,
c'est ça.
Et puis aussi, une fois, on va dire,
avec mouvement.
On courait. On...
Oui. Ouais. C'était pas courir, mais courir en mouvement.
Oui.
Ça. Ouais.
Un souvenir d'envol.
si tu manifestais l'aspect ciel.
Oui.
C'est vrai, parce qu'on était amené à... Avec notre corps.
Oui.
Et on a, ça, j'étais inspirée parce que j'avais fait ça à Naropa. Et d'ailleurs, quand on était à Dashen Shorin, on avait fait ça avec... Il y avait un groupe qui faisait une semaine de ça. C'est théâtre... c'est un théâtre bouddhiste, quoi. Enfin, dans cette tradition. Hein, qui n'est pas théâtre comme on pense, mais qui utilisait ces trois principes et les incarnait.
Ouais.
Et donc on avait fait avec ce groupe, on avait écrit, nous les écrivains, on avait écrit des haïkus et on a travaillé avec des gens de d'autres stages qui ont lisé les haïkus et eux ils mettaient ça en mouvement. C'était très intéressant. Mm. Parce que ce trio-là réapparaît dans toutes les traditions asiatiques orientales en fait. Ça peut s'appliquer à une voie spirituelle, ça peut s'appliquer dans la calligraphie ou dans le ikebana qui est les fleurs. Ça s'applique dans les sociétés, dans les... Il y a comment il s'appelle cet écrivain qu'on lisait à un moment, toi et moi. Enfin, moi je le lisais, François Julien.
Mm-hmm.
Ouais. Qui est très... Il est un, comment on appelle, un sinologue, donc quelqu'un qui spécialise les Chine. Ouais. Mais pas du tout... pas du tout d'une façon conceptuelle. Il étudie les arts, les philosophies, les cultures, la société chinoise, etc., anciens, traditionnels, et donc il parle beaucoup de ça, de cette triptyque qui va apparaître tout le temps dans différents domaines de la vie orientale, pas uniquement en Chine. Parce que les Tibétains, ils ont aussi ça. Et les Japonais aussi. C'est une autre façon de penser. Hein. C'est aussi, eux, ils vont penser, ils vont écrire avec des idéogrammes. Donc ça, c'est aussi, c'est complètement différent.
Mm.
Nous, on... ce qui est fascinant comme approche, en fait. Hein. Je ne sais même pas comment ça se fait. Ça m'intrigue. Comment on peut écrire avec des idéogrammes. Mais c'est ça. Mais c'est quelque chose que, d'une façon très simple, on peut souvent utiliser comme grille, c'est un trio. C'est pas forcément ciel, terre, être humain. Ou relative absolu et relative absolu, ou absolu relatif, le triangle. Bon, on peut appeler ça ce qu'on veut, mais en presque chaque situation, si on observe, on verra manifeste un trilogie, un triptyque d'un sort ou d'un autre. Et ça peut nous aider à agir, comprendre, se situer, interpréter, manifester une situation.
Jung parle beaucoup de l'attention des opposés et et finalement, dans chaque situation, enfin, je ne sais pas si c'est dans chaque, mais oui, on peut voir comment finalement il y a cette tension en nous où, je ne sais pas, se laisser aller au stress, par exemple, ou, et puis cette tendance aussi à vouloir le contrôler ou, et bon, il y a ce qu'il appelle le principe, je crois que c'est le principe transcendantal, enfin, qui est vraiment ce, ben le apax, quoi.
Ou la voie du milieu.
Mais lui souligne beaucoup, et moi je le ressens pour moi, cette tension dans les opposés. Cette tension, qu'on l'appelle ciel, terre, absolu, relatif. Et c'est, je crois que c'est un phénomène qui qu'il ne faut pas oublier quoi, cette tension en nous. Cette,
Et en fait, ce qui est intéressant avec les tensions, c'est que c'est le preuve que...
Ça oblige d'être créatif.
Ça oblige d'être créatif, c'est vrai. Et c'est précieux parce que s'il n'y a pas cette tension, s'il n'y a pas l'un, l'autre ne peut pas exister. Donc la tension est précieuse en fait. C'est la manifestation du fait qu'il y a les deux présents. Parce que l'un ne peut pas exister sans l'autre. Et c'est fascinant. Hein. Ou par exemple, on prend ce truc dont on est tous affolés en ce moment avec Harvey Weinstein. Harvey Weinstein. Tout le monde sait de quoi on parle. Brigitte ne sait pas. Harvey Weinstein, c'est un grand producteur de cinéma à Hollywood. Ça te dit rien?
Non. Si, je crois que j'ai vu passer un truc. Il y a un machin sexuel là-dessous.
Oui, oui, c'est ça.
Ouais, j'ai vu passer un truc.
Où depuis des décennies, en fait, il abusait des femmes. Harcèlement, des actrices qui étaient obligées de. Ça ne me surprend pas, en fait. On dit, bah oui, bien sûr. Mais en même temps, c'est surprenant. Et en fait, donc c'était, il y avait ces deux extrêmes. Le mec hyper puissant qui détenait tout le pouvoir et les actrices qui étaient, bon, même si elles repoussaient et refusaient, etc., elles étaient tenues à ne rien dire parce que leur carrière dépendait de lui. Et elles craignaient qu'elles seront empêchées de travailler à Hollywood si elles disaient « Putain, mais le mec, il essaie de me sauter, il fait que je fuis, etc. » Il y en avait d'autres qui étaient véritablement abusées, même il y en a qui disent qu'elles étaient violées. Mais il y en avait qui non, qui ont fui, qui ont réussi à le faire, c'est pas. Il y avait d'autres qui... Apparemment, c'était ce qu'on appelle un secret ouvert. Tout le monde était au courant, plus ou moins. Mais personne ne disait rien, parce qu'il était tellement puissant à Hollywood. Il faisait le pluie et le beau temps. Alors, qu'est-ce qui a changé? C'est ça qui est fascinant. C'est que quelques femmes ont parlé. Et c'est comme si le barrage était ouvert. Et c'est une inondation de femmes qui disent que moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et maintenant, il y a même un truc sur Facebook, Me Too, Me Too, Me Too. Toutes les femmes qui c'est inouï. Et c'était juste quelques femmes, une ou deux, je crois, qui ont osé parler. Grâce à des journalistes qui ont insisté pour faire une enquête et qui ont convaincu ces femmes de parler. Mais bon, et elles ont quand même osé. Et donc, si on regarde ça, c'est vraiment une situation de polarité, de toute puissance et de toute impuissance. Enfin, la victime absolue et le mec super pouvoir. Et c'était impossible, c'était un impasse. Jusqu'à ce que quelqu'un, ces femmes, qui, on peut dire qu'elles ont pris leur pouvoir, elles ont assumé le parti que lui, il incarnait, tout en étant ce qu'elles étaient, et c'est ça qui a permis d'ouvrir le champ. Le fait de ne pas être figé dans un camp ou l'autre, elles ont pleinement manifesté le fait qu'elles étaient victimes, mais avec force, avec puissance, en prêtant leur voix et leur personne, etc. Et c'est ça qui a tout changé. Mais ce type, dans l'espace de, je n'ai même pas 10 jours, je crois, il est ruiné. Il est banni des Oscars, il a enlevé de son entreprise, qui était à lui, en fait, et son frère. La France va enlever son légende d'honneur. Il y a des flics qui enquêtent parce qu'il y avait des accusations de vol. Mais c'est incroyable, le chute qui tenait de rien du tout. Rien du tout. Et c'est une manifestation de ce que je dis, c'est-à-dire que c'est tellement, tout est toujours présent, mais on ne l'incarne pas.
C'est-à-dire
ces femmes,
oui,
qui étaient complètement soumises, enfin soumises, c'est...
Dépendantes, tout de même.
Oui, en fait, elles étaient obligées, entre guillemets, elles pensaient, parce que leur carrière dépendait de ça, de lui, de ne rien dire. Même si elles n'étaient pas dans les films qu'il produisait, etc., c'est qu'il était tellement puissant à Hollywood, et il y en a même qui l'avaient payé pour ne rien dire.
Et les contrats les obligeaient de ne rien dire aussi.
Voilà, souvent il y avait des contrats qui disaient vous ne pouvez rien dire, sinon votre contrat n'est pas valable. Mais il y avait des mannequins, il y avait des gens qui n'étaient pas forcément les actrices de cinéma, si vous voulez. Et, mais dans ces gens, il y a toujours présent, elles sont figées dans une position de victime, c'est terrible ce qu'elles ont vécu. Je ne mets pas du tout en question leur démarche, pas du tout. Je dis simplement que c'est toujours là, la possibilité d'être autre chose. Il faut du temps, il a fallu des circonstances, etc. Mais rien n'est figé. Et le ciel est toujours présent. Et la terre est toujours présent.
C'est un peu comme notre jeu de tennis. On peut facilement penser que soit on sait jouer, et on joue avec ceux qui savent jouer, soit on ne sait pas, on ne joue pas.
Voilà.
Et il y a ce...
Exactement.
Cette troisième voie.
Oui, Bouddha parlait de voie du milieu.
Voie du...
Qui n'est pas milieu. C'est un peu comme... Mais on utilise souvent, il y a un truc transcendantal, ou bien pour le truc apex, qui... Je sais que ce n'est pas ce qu'il veut dire, mais ça nous peut donner l'impression que c'est une voie au milieu, ce n'est pas au milieu, que c'est une voie au-delà, ce n'est pas au-delà, que c'est une voie plus haut, ce n'est pas plus haut. Mais c'est autre. Et c'est difficile de trouver le langage pour l'exprimer parce que le langage, forcément, va vers les clivages, les différences, les qualités, les jugements, etc. Mais quand Jung dit transcendantal, il ne veut pas dire que c'est au-delà.
Tenir les deux.
Oui, c'est une question de tenir les deux. Et donc, quand les femmes disent « Moi, une telle, j'étais abusée par lui, un tel », elles incarnent les deux. C'est une prise de puissance, de pouvoir, comme on dit. Et c'est tellement... C'est fascinant, moi ça me fascine. Je pense toujours à la chute du mur de Berlin. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce jour-là, ceux qui sont assez âgés pour se souvenir de ça. Moi je me souviens, c'était sidérant ce soir-là. C'était sidérant parce qu'on avait grandi avec le rideau de fer. Et c'était figé à un tel point que c'était impossible d'imaginer comment ça pouvait se défaire, cette histoire. Et parce qu'il y avait des armes nucléaires de chaque côté, les positions étaient tellement figées, il y avait des armées tellement fortes, il n'y avait pas de possibilité. C'était terrible. Et puis un soir, je travaillais comme journaliste ce soir-là, et on a vu des dépêches qui arrivaient, et tout le monde, c'était pendant l'heure du dîner. Et donc, il y avait peu de gens dans la salle de rédaction. Moi, j'étais là, je ne sais pas pourquoi, et d'autres gens, quelques autres personnes. Et donc, j'étais parmi les moins seniors à l'époque. Et donc, mon chef m'a dit, quand on commençait à comprendre ce qui se passait, mon chef m'a dit, va chercher les autres. Et je savais où ils étaient, ils dînaient tous dans un endroit en face. Et il dit, va les chercher, il faut qu'ils reviennent, c'est incroyable ce qui se passe. Donc j'étais allée les chercher, ils croyaient que je plaisantais. Ils étaient en plein dîner, ils me disaient, oh ouais, vas-y.
Oui.
Comme si j'essayais de leur faire venir, etc. Et je dis, mais je ne plaisante pas. Le mur de Berlin s'est ouvert. Il y a des milliers de personnes qui traversent. Il faut revenir. Le chef dit de revenir. Et ils étaient, mais c'est grave. Et ça aussi, c'est le truc qui dépend de... Hein, la tension est telle qu'à un moment, un tout petit truc, c'est... En fait, c'était un malentendu qui... Le truc des maires de Berlin. C'était un malentendu. C'était, enfin, plus ou moins... Je ne sais pas exactement ce que c'était, mais c'était un garde d'une des postes à Berlin qui... c'était du genre, il a reçu un message de l'État est-allemand qui disait quelque chose du genre, oui, ils peuvent passer, ou un truc comme ça. Parce qu'il y avait une question, c'était déjà, ça faisait plusieurs mois que ça devenait compliqué, il y avait des manifestations, il y avait une église à Berlin-Est qui était très, une église protestante qui était très militante, etc. Bon. Je me souviens pas exactement des détails, mais ce garde qui laissait passer les gens n'a pas compris. Parce que c'était pas clair que c'était juste pour laisser passer quelques personnes qui étaient là à ce moment-là, c'était pas laisser passer tout le monde. Et on pense qu'ils savaient plus ou moins que c'était pas ça. Mais dans un moment d'inspiration, je sais pas, il a dit ok, il laissait passer des gens. Et. Ça commençait, tout le monde passait. Et ça, donc, on passait le mot de bouche à oreille qu'on pouvait passer librement. Et puis d'autres gardes ont entendu ça, ils ont ouvert aussi. Et donc, c'était la folie.
Et à la fois, si. Enfin, je ne sais pas qui, les responsables auraient pu refermer tout.
Exactement, oui, mais ils ne l'ont pas fait.
Oui, c'est ça, oui.
Ils ne l'ont pas fait. Les situations étaient telles, c'est comme un petit poule à l'intérieur de l'œuf et la mère qui tape en même temps. À un moment critique, ça s'ouvre. Et c'était comme ça que ça se passait, cette mère de Berlin. Donc voilà, ça c'est les exemples de comment ça se manifeste. Et ça peut nous ouvre, ça nous ouvre aussi les perspectives si on peut regarder une situation pas juste d'un perspective et de ne pas avoir une position figée de comment ça doit être ou pas être. Moi, j'ai mon rêve secret, c'est que le même genre de choses passe avec l'économie capitaliste néolibérale. Parce que c'est aussi fragile. Parce qu'il y a très peu de gens qui détiennent toute la richesse. Et si la majorité s'activait autrement, tout s'écroule. Bon, ça fait un peu peur que tout s'écroule, parce que ce sera un chaos inimaginable. Mais c'est un peu mon fantasme.
Fantasme économique.
Voilà.
Et à partir de ça, il y aura forcément des choses qui renaîtront, c'est ça?
C'est ce qui se passe, hein. Mais on ne sait pas quoi. Là, ça revient à cette histoire des tensions de Jung. Le fait que, en fait, c'était aussi problématique que le mur de Berlin s'est écroulé. Parce qu'il y avait des tensions. Et tant qu'il y avait des tensions, il n'y avait pas un système qui dominait. Dès que ce mur s'est écrasé, le système capitaliste et néolibéral a envahi tout le monde. Et donc, il n'y a plus cette tension. Tout le monde est dans le même système économique. Alors, ce n'est pas toujours les résultats qu'on souhaite. Bon, on peut dire que ces peuples, au moins, ils sont libres. Ils sont libres d'être soumis à un système capitaliste. Mais bon.
C'est-à-dire, c'est qu'avant il y avait une espèce d'équilibre, enfin,
oui,
entre pouvoir, je sais pas quoi, entre
tragique pour ces gens-là, ouais, hein, mais
et communisme, c'est ça?
Oui, dans tout ces, mmh, le bloc de l'Est, c'était tragique. En fait.
Les deux totalitarismes, quoi.
Exactement. Mais le système capitaliste libéral,
oui,
était tenu en échec. Et ce n'était plus du tout, c'était pas du tout ce qu'on sait aujourd'hui. C'était beaucoup plus modéré, beaucoup plus équilibré.
Ah ouais. Ouais.
Maintenant, on ne sait pas, mmh, comment ça va s'arrêter. Ok, je crois que c'est temps, hein, non?
Mmh.
Quelle heure?
La nuit.
C'est bien.